Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Bien, nous venons d'entendre que la folle journée de Nantes, la thème de cette année c'est la nature. Ça tombe très bien parce que nous faisons une super transition en accueillant Franck Bouys. Franck Bouys, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, je parle de la folle journée de Nantes et de la nature parce que les livres que nous avons découverts assez récemment, en particulier Grossir le ciel et Plateau, font une très très large place à la nature. Alors, je vous présente en deux mots. Donc, Plateau, c'est votre cinquième, sixième, septième, je ne sais plus, roman.
Oui, à peu près.
Voilà, c'est à peu près. Nous, on vous a vraiment découvert avec une merveille qui s'appelle Grossir le ciel, qui a été publiée chez le même éditeur. Alors, vous savez bien, vous avez, je crois, pratiquement deux éditeurs, un directeur de collection avec les éditions Écorce et puis la manufacture de livres. Et une très très belle collection qui s'appelle Territory, et donc ce dernier roman s'appelle Plateau. Alors je précise parce que ça a son importance, en général je ne parle pas beaucoup des métiers, mais qu'il me semble bien que vous êtes aussi enseignant en biologie.
Oui, enfin je fais de la formation professionnelle, je donne des cours de tout ce qui est biologie végétale, oui.
Voilà, et ça se ressent un petit peu parce qu'on a beaucoup, beaucoup de précisions sur des végétaux, sur des animaux dans ce livre et même dans les précédents. Et dans celui-là, on va découvrir, alors le précédent se passait dans un petit coin de Cévennes, et celui-là, ça se passe sur un plateau qui est plutôt un petit peu plus haut, me semble-t-il. Vous dites, dans ce hameau qui s'appelle Les Cabanes, vous dites un pays de rien. Dans le précédent, il y avait deux personnages principaux et pas grand monde d'autres. Là, il y en a un petit peu plus, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Et en fait, est-ce que je me trompe si je dis que ce livre, ça tourne autour d'un huis clos, mais totalement sartrien, puisqu'en fait, chacun des personnages, c'est l'enfer pour les autres.
Tout à fait, ouais. Mais c'est une espèce de drame antique, ouais, effectivement, une tragédie. C'est peut-être ma façon d'essayer de rendre hommage à Shakespeare, je sais pas. Mais oui, c'est exactement ça, c'est un drame, un drame antique, un drame. Alors oui, alors il n'y a pas beaucoup de personnages, effectivement, l'idée en fait de ce roman, c'était avec Grossir le ciel, j'avais les Cévennes étaient là comme un espèce de support en fait, support aux émotions. Et là, j'avais envie vraiment de faire d'un endroit que je connais très bien. J'avais envie d'en faire un personnage à part entière, une espèce de déité, quoi, qui décide et qui raboite les hommes, qui voilà. Et après, avec alors beaucoup plus de personnages pour moi, effectivement,
oui.
Peu pour. Mais j'avais envie de construire comme ça des interactions entre les personnages et de les faire basculer comme ça de. En fait, que le lecteur ne soit jamais en terrain connu. Enfin, il pense à un moment donné connaître le personnage, et en fait, j'aimais bien cette idée de bascule. Voilà.
Alors, la bascule, elle est à plusieurs niveaux. Elle est au niveau des tout petits indices que vous parsemez petit à petit, que le lecteur ne comprend pas vraiment. Une histoire de lettres qui se reçoit tous les mois. On comprend pas tout à fait. Il y a plein de petites choses, des choses qu'un des personnages découvre dans la nature. Donc on dirait que vous avez un petit peu construit ce récit comme un puzzle. Et puis voilà, au fur et à mesure, on bascule, on trouve une nouvelle petite pièce.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je me suis construit l'intrigue au fur et à mesure, et comme je fais toujours, et je semais des petits cailloux, effectivement, que là où le lecteur ne fait pas forcément attention, mais petit à petit, ça prend corps, et puis on construit le puzzle un peu dans le désordre, en fait, quoi, un peu par hasard.
Voilà,
j'aimais bien cette idée-là.
Voilà, alors on va présenter un petit peu les personnages, alors peut-être un petit peu dans le désordre, et chacun est en correspondance avec une part importante, je trouve, des thèmes du récit, mais vous pouvez me contredire. Alors on va commencer par un très beau personnage de femme qui est Judith. Judith, c'est une vieille dame qui a toujours vécu dans ce hameau, qui est une personne du cru. Elle a toujours vécu là, elle s'est mariée avec Virgile, un homme du coin, et Judith, elle qui est pratiquement qui a la mémoire de toute, enfin pas toute la région, mais de tout le coin, de tous les champs. Et justement, elle est en train de la perdre, la mémoire, puisqu'on apprend très vite, ça on peut le dire, qu'elle est atteinte d'Alzheimer. C'est pas un beau symbole, mais c'est un symbole très fort dans le livre.
Oui, oui, bah c'est le personnage pour moi central du livre. Vous avez alors tout à fait mis le bah c'est pas un hasard si ça me touche que vous le citiez en premier quoi en fait parce que c'est vraiment ce personnage là qui transperce le livre, enfin qui m'a transpercé moi. Tout s'est construit autour d'elle. Même bah, j'allais trop en dire.
Non non voilà, mais on va juste parler des personnages. On va laisser les lecteurs découvrir petit à petit cette histoire à la fois très sombre et très lumineuse parce que Judith c'est un personnage très très lumineux. Alors aux côtés d'elle, il y a son mari. Un homme rude, mais qui est quand même pétri d'amour, parce que c'est un très beau roman d'amour. Alors là aussi, il n'y a pas de hasard, il s'appelle Virgile. Alors Virgile, moi, ça me fait quand même penser qu'il a écrit Les Bucoliques, il y a très longtemps, le vrai, enfin, celui qu'on connaît le mieux. Et puis, sur la tombe de Virgile, c'est étonnant, parce qu'il parle de la nature sur sa tombe, il parle de ses déambulations, donc c'est pas un hasard, ce prénom.
Non, bien sûr que non. Vous êtes perspicace.
On essaye de trouver un petit peu... On essaye de récupérer un petit peu les cailloux que vous avez laissés le long du chemin. Et puis un autre personnage, alors aussi très très central, c'est Georges. Alors Georges, c'est le fils adoptif, c'est le neveu de Virgile et de Judith. Et vous dites de lui, alors ça c'est une phrase aussi très forte dans ce livre, vous dites de lui une lucidité viscérale l'a toujours préservé de toute forme de bonheur. C'est terrible.
Oui.
Oui,
oui mais c'est peut-être le moyen de survivre avec ses fantômes à lui, puisque sans rien ne dévoiler, c'est peut-être la seule façon qu'il a de survivre, cette lucidité-là.
Oui, alors il est en face de la maison de ses parents, il vit dans une caravane, et dernier personnage à habiter là, tout au moins depuis un moment, un prénom à la consonance très, je dirais, étrangère, parce que justement c'est l'étranger qui est arrivé depuis un moment, c'est Karl. Alors Karl, il chasse, il est devenu ami avec Virgile, mais lui aussi, ses secrets viennent d'ailleurs, mais il a de lourds secrets dans la tête, et tout ce petit monde-là s'observe quelque part.
Oui, c'est ça, se renifle, s'apprivoise, parce qu'il en faut du temps avant que Virgile et Karl s'apprivoisent. Alors Karl, oui, c'est un prénom aussi qui claque comme un coup de fusil, comme un coup de fouet, puis c'est l'étranger, c'est exactement ça, oui.
C'est l'étranger, pardon.
Cette petite communauté vit là, tant bien que mal. Oui, alors il y a ce Georges là qui est très... qui est un personnage aussi très fort pour moi, parce qu'effectivement, il ne veut pas habiter dans la maison de ses parents, il ne veut même pas y rentrer. Donc, il a fait une caravane le jour de ses 18 ans. Et puis, il enfonce la lame un peu plus profondément. On a cette sensation-là, puisqu'il décide d'habiter pile en face. Il pourrait aller planter sa caravane ailleurs. Non, il la plante devant.
Ici. Une torture perpétuelle. Alors, on a l'impression que par rapport à cette nature où la vie est très rude, on ne peut pas gagner beaucoup d'argent, on ne peut pas s'en aller. Dès qu'on arrive 200 km, on est un étranger. Mais ces quatre personnages-là vivent quand même, il y a un certain équilibre. Petit à petit, on sent qu'il y a de lourds secrets, qu'il y a des drames enfouis, des histoires absolument terribles. Mais il y a un certain équilibre. Et hop, le déséquilibre, la bascule, c'est Coralie qui arrive avec elle aussi. Alors là, on peut juste dire c'est une femme battue qui se sauve, qui essaye de se sortir de cet enfer. Et Cori, c'est un peu comme le personnage de Théorème. Elle arrive et elle va fiche tout l'équilibre en l'air.
Exactement, exactement. C'est le personnage qui va faire tout exploser. Tout ce qui était latent, en fait, tout ce petit équilibre, tout ce petit écosystème là, va voler en éclats. Quand ce personnage-là va arriver, c'est donc la nièce de Judith, qui n'a pas d'autre famille qu'elle, donc qui vient se réfugier dans le haut cabane, donc pour échapper à celui qu'elle appelle l'homme torture.
L'homme torture. Alors il y a aussi un personnage un peu mystérieux qui est une espèce de démon de la forêt que vous appelez l'homme chasseur. On n'en dira pas plus. Les lecteurs vont le découvrir petit à petit. Mais cet homme chasseur, entre autres, ça va justement permettre de découvrir toute la nature qui environne ce petit ce petit hameau, qui est une nature à la fois maléfique et très poétique. Est-ce que vous, vous écrivez sur place? Moi, je me suis demandé, d'abord, vous connaissez l'endroit par cœur?
Oui,
et est-ce que vous emmenez du papier et crayon? Est-ce que vous écrivez sur les lieux?
Bah, je vis dans cette région-là, mais jamais je vais écrire dans la nature, en fait. Mais c'est tellement profondément ancré en moi que c'est vraiment pas d'effort. Alors, c'est quelque chose de très juste. Enfin, l'idée, en fait, c'était d'essayer de... Je fais des romans noirs à ma façon, quoi, en fait. C'est-à-dire que je pense que l'histoire... Ce qui m'a touché, c'est que vous ayez dit, effectivement, c'est lumineux. Ça me fait plaisir, parce qu'en fait, c'est un roman très noir,
C'est même terrible, des fois.
Terrible. Mais moi, l'idée, c'était aussi de... En amenant cette poésie, moi, qui m'est chère, qui me coûte pas, parce que c'est ma nature, enfin c'est comme ça, j'écris comme ça, c'était une manière aussi de me sauver du noir, c'est une manière d'éclairer un peu cette noirceur, de contrer un petit peu l'âpreté des dialogues entre ces personnages, donc de m'envoler comme ça dans cette nature que je connais parfaitement, de m'ancrer, de descendre dans la terre, de toucher le rocher, de le sentir, ça c'est vraiment important pour moi.
Oui, on a toutes les sensations, on a les bruits, on a les odeurs, on ressent vraiment tout ce que ressentent les personnages. Et il y a toujours cette ambiguïté d'une nature dans laquelle ils vivent quand même en harmonie, parce que de toute façon, sinon, ils ne pourraient pas survivre, c'est évident, et d'une nature qui pourrait être quand même, qui est terrible et hostile, malgré tout.
Bah, c'est elle qui décide, et c'est elle qui... Le granit durera plus longtemps que les hommes.
Il est là depuis beaucoup plus longtemps.
Et oui, et puis c'est lui. Voilà, donc les hommes n'ont pas le choix. Ils sont obligés de composer avec la nature. C'est pas l'inverse. Hein. C'est pas l'inverse. Il n'y a qu'à voir ce que devient une friche quand elle est laissée à l'abandon. Et comme beaucoup de friches à l'heure actuelle, ça repousse selon la loi de la nature. Point.
Et la nature.
Pas selon la loi des hommes.
La nature reprend ses droits, comme on dit.
Ouais.
Et ce qui est très beau, justement, je parlais de lumière, c'est aussi la manière dont vous faites parler des taiseux. Parce que ces personnages, vous habitez en Corrèze, dans les Cévennes, il y a beaucoup de gens qui parlent peu, qui ont peu l'occasion de parler. Et à un moment donné, vous dites, il y a Karl et un autre personnage, ils mélangent les mots, ils mélangent leur silence. Donc c'est ce que vous ressentez des gens qui sont dans cette région, parce que nous, dans le sud, c'est un peu moins vrai, disons, on va dire.
Oui, c'est tout à fait vrai. Moi, je les connais par cœur. Depuis mon enfance, je suis né là-dedans, je continue à habiter un endroit comme ça, très très isolé, où je vais souvent et je parle avec eux, je les connais par cœur, je les ressens, c'est leurs mots, l'intelligence d'un regard, c'est mélangé au silence effectivement, ou parfois quand ils parlent c'est souvent codé tout ça, mais on arrive à quand on les a un peu écoutés, on arrive à décrypter. C'est souvent intelligent. C'est quelque chose qui me parle au cœur, quoi, en fait, voilà. Donc c'est effectivement faire parler des taiseux, c'est vraiment ça, quoi. C'est comment on peut faire ressentir des choses en disant parfois autre chose,
ou en faisant des fois un geste, ou en tuant un poulet.
Oui, ah oui.
Il y a une scène qui est tout à la fois terrible, où Judith égorge un poulet et quelque part, d'abord il y a un témoin, il y a des yeux, il y a une vision et il y a quelque part un tableau, je dirais presque de la Renaissance qui intervient là, qui arrive. C'est empreint de poésie et de... Et voilà, c'est, on dirait, une fresque, finalement.
Ouais, quand j'écris des scènes, je les ai... C'est très visuel. Mmh. J'ai besoin de ça. Je l'ai... Et effectivement, cette scène-là, pour moi, elle m'a... J'étais épuisé après l'avoir terminée, parce que, en fait, l'idée, c'était que on sache pas où se situe Judith, justement. Bon, je ne veux pas en dévoiler plus. Qui est-elle à ce moment-là, quand elle fait ça? C'est-à-dire, on pourrait décrire, effectivement, comment on tue un poulet, mais ce n'est pas ça, c'est bien plus que ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans le regard de Virgile quand il la regarde? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, il y a un témoin, il y a un autre témoin de la scène.
Voilà, c'est comme un peu une caméra, un champ contre champ.
On déplace en fait les angles de vision et selon l'angle, ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qui est Judith à ce moment-là? Est-ce qu'elle est folle? C'est un moment où elle a perdu la lucidité ou est-ce qu'elle est extrêmement lucide, justement?
Alors, ce qui déplace aussi l'histoire, la vision, c'est justement quand les personnages vont soit chercher des bêtes, soit c'est toute cette nature qui est à la fois totalement étouffante et oppressante pour les personnages. On a parlé de huis clos en début, mais avec tous ces mots qui sonnent à l'oreille, tous ces mots de végétaux, par exemple. Alors moi, il y en a plein que je connaissais pas, les calunes, les jalousies. Ça, quelle tête, ça, les jalousies, c'est trop beau.
Ah, c'est ce qu'on appelle l'œillet des poètes aussi.
Ah, d'accord. Ça, je connais plus. Les siliques.
Oui. Moi, je connais tous ces. Je connais les noms de ces plantes-là, donc je ne vais pas m'interdire de les utiliser. Et souvent, c'est très poétique, en fait.
Oui, tout à fait.
Peu importe, à la limite, peu importe, le lecteur n'est pas obligé d'aller chercher dans un dictionnaire de botanique, mais normalement, la musique doit suffire dans la phrase, en fait, à faire naître telle plante ou telle plante. Alors donc je ne vais pas dire, ils se promènent dans les joncs, non, ils se promènent dans les carex. Parce que carex, déjà, on est dans une espèce de lande. Ça claque, on sent le vent, en fait, dans le carex. Alors que jonc, non, c'est mou.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est dans la musicalité des mots.
Voilà. Et dans la phrase, pour moi, c'est important parce que j'ai besoin de cette musique-là. Ça m'est égal que ben c'est comme quand on écoute une chanson de Bachung. Et moi, je comprends pas tout, surtout la première écoute. Mais c'est pas important. Ça fait partie de la musique, quoi, en fait. Voilà. Et après, j'espère que l'histoire prend le dessus, quoi, parce que je pense que l'histoire est assez forte. Il y a beaucoup de suspense. Il y a beaucoup de tension, en fait.
Il y a énormément de tension. Oui, c'est vraiment, on est dans ce qu'on appelle vraiment le roman noir, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un roman policier avec une exaction, un meurtre et puis une enquête. Non, je dirais que c'est tempête sous quelques crânes et petit à petit, on va pénétrer leur âme finalement. Vous essayez de nous montrer la lumière dans la noirceur et réciproquement, je dirais. Voilà, c'est cet équilibre.
Vous me permettrez de le réutiliser, ça. C'est exactement
d'accord.
Ça. C'est exactement ça. Voilà. Il n'y a pas le noir et le blanc n'existent pas. Voilà. On peut être le plus magnifique des hommes et le pire à un autre moment. Et la plus merveilleuse des femmes et le pire être humain après. On est fait comme ça aussi. On est capable du meilleur comme du pire. Je ne juge pas mes personnages à aucun moment. Il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas de. Je les regarde et puis petit à petit je rentre dans leur crâne. C'est exactement ça. Je les lamine comme moi ça me lamine d'écrire. Je peux pas faire autrement en fait. J'ai besoin de les posséder totalement, ces personnages-là.
Eh ben alors, surtout ne changez pas, parce que c'est vraiment un régal. On vous a découvert il n'y a pas si longtemps avec Grossir le ciel, je répète, parce que c'est aussi un livre magnifique. Donc, ces deux livres, Plateau, Grossir le ciel, on arrive au bout de l'interview et au bout de l'émission. Donc, Franck Bouys, merci beaucoup. Et puis, je redirai tout ce qu'il faut savoir sur le livre en deuxième partie d'émission. Merci beaucoup, au revoir Franck Bouys.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.